Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Des clés pour grandir, nouvelle émission. Des adolescents intellectuellement précoces, surdoués à haut potentiel, c'est le sujet du jour. Au programme, deux invités, deux mères de famille. Karine Ratier, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve dans cette émission du jour. Vous êtes, je le rappelle, maman de deux adolescentes filles à haut potentiel intellectuel et non surdouées. Vous n'aimez pas du tout ce terme de surdouée. Pourquoi,
non.
En deux mots.
Surdouée, ça me fait penser au premier de la classe et tous les enfants au potentiel ne sont pas premiers de la classe. Certains sont en difficulté scolaire et à la marge des classes et de l'éducation nationale.
À vos côtés, une maman que vous m'avez fait donc découvrir, Ingrid Boussif. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Alors vous êtes vous-même mère de deux grands adolescents,
oui,
14 ans et 18 ans.
C'est ça.
Oui. On va dire des enfants surdoués, haut potentiel, intellectuellement précoces. Quel est le terme le plus juste?
Écoutez,
pour
moi, la précocité résonne bien. Après, je pense que c'est surtout une question pour moi d'équilibre et de bien-être pour l'enfant, de se sentir socialement adapté.
Socialement voilà. Adapté. Alors, vous êtes mère de famille, mais vous êtes également professionnellement thérapeute.
Oui, tout à
Alors,
fait.
Alors, quand on est thérapeute, quand on devient un thérapeute, il y a un parcours. Quand le diagnostic aussi est posé de deux enfants diagnostiqués intellectuellement précoces, on réagit comment
Mais écoutez,
est-ce qu'on est préparé?
Je ne sais pas si on est préparé à tout, de toute façon, dans la vie. Pour autant, je dirais que pour avoir été prévenue par la diabétologue de ma fille, qui m'avait dit « votre enfant est précoce », je n'avais pas trop tenu compte du terme, et je la trouvais tellement socialement adaptée, c'est pour ça que je le dis, que je n'ai pas ressenti la nécessité pour elle de la faire diagnostiquer. Par contre, quand je l'ai fait et que l'on s'en est rendu compte, il ne s'agissait ni de sauter une classe, ni de faire la différence, parce que encore une fois, elle avait suffisamment d'activités extrascolaires pour ne pas s'ennuyer, contrairement à son frère qui s'ennuyait lui. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a là deux enfants qui donc sont, comme vous le dites, intellectuellement précoces, mais c'est surtout deux personnalités différentes. Et je crois que c'est l'important.
Et l'accompagnement a été très différent
Tout
de
à
ces
fait.
Deux enfants
Oui. Complètement différent.
Deux mots.
Mais écoutez, pour l'une, l'aînée, la psychologue a effectivement établi le diagnostic, mais aucun suivi ni proposition de suivi derrière. Et donc, entre guillemets, je me suis sentie un peu seule avec ce diagnostic.
On rejoint le même témoignage la semaine passée de Karine Ratier à vos côtés.
Oui, c'est aussi ce qui nous a rapprochés. Mmh. Je crois que c'est de parler de nos enfants comme des enfants normaux aussi. Hein, c'est-à-dire, ce sont des enfants qui jouent, ce sont des enfants qui ont des sentiments, des émotions. Hein, ce ne sont pas des enfants qui uniquement ont des capacités intellectuelles de haut niveau. Hein, je crois que voilà, c'est ça qu'il faut peut-être un peu saisir et différencier, parce que je crois que dans la, on va dire dans la société pensante là où tout le monde a son avis à donner, il faut attention aux confusions et au fait que ils jouent aussi nos enfants.
Ils jouent, ils rient.
Ils ont une manière de fonctionner qui est différente de d'autres personnes. Voilà en quoi, à mon avis, ça, on peut associer la précocité. Mais ensuite, je suis d'accord avec Ingrid, ils sont normaux. Alors, ils sont peut-être hypersensibles, mais apparemment, d'après ce que j'ai appris en dehors, il y a des enfants hypersensibles et qui ne sont pas précoces. Donc, il faut les traiter normalement et prendre en compte que quand ils vous parlent, ils ne sont pas arrogants. Parce que ça, souvent, on leur envoie à la figure « vous êtes arrogant ». C'est plutôt des questions... ce sont des interrogations plutôt, voilà, la plupart du temps.
Vous confirmez, Ingrid ?
Tout à fait, c'est-à-dire que pourquoi ? Parce que l'enfant, connaît la réponse sans pouvoir la décortiquer, l'expliquer méthodologiquement, d'accord ? Et ça, c'est entre guillemets ce chemin hein, qui pour eux est un raccourci qu'ils n'arrivent même pas à s'expliquer eux-mêmes en fait au départ. Hein. C'est pour ça qu'il faut, quand je suis d'accord avec le fait que l'on diagnostique les enfants, c'est une chose. Mais ce n'est pas pour moi le plus important. Le plus important pour moi, c'est le suivi derrière, s'il est nécessaire, bien sûr, parce que l'enfant a besoin de comprendre son propre fonctionnement pour s'adapter aux autres. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde devrait faire, selon moi. Mais bon, parenthèse mis à part, l'important, et c'est comme ça que pour mon second, eh bien, effectivement, j'ai peut-être été, on va dire, un peu plus réactive, c'est que je voyais bien ce qui le gênait. Pour autant, je n'avais pas forcément les solutions à tout et j'étais à chaque fois en train de lui dire « Mais tu dois t'adapter, tu dois comprendre les autres aussi. Il n'y a pas que les autres qui doivent te comprendre. » Voilà, hein, c'est à double sens. Et c'est pour ça que la psychologue que vous avez invitée à cette émission a été pour nous une personne ressource, puisqu'elle a permis à mon fils de comprendre comment gérer ses émotions et comment pouvoir penser et dire les choses plutôt que de les mettre en acte, parce que parfois ça pouvait être un peu violent. Hein, c'est-à-dire que quand on ne dit pas les choses, eh bien, voilà, on tape ou on jette une chaise. Et c'est malgré eux, parce que derrière, immédiatement après, ils le regrettent. Hein. Mon fils n'est pas un enfant violent de nature. Hein. Simplement, à un moment donné, il ne comprenait pas l'autre ou son propre comportement. Et donc, ça le mettait très en colère. Et cette vive émotion l'empêcher de réfléchir sereinement.
C'est un trop plein d'émotions qui est ingérable pour l'adolescent dit intellectuellement précoce. Il ne sait pas. En fait, il ne peut pas parce qu'il ne sait pas. Il a besoin d'apprendre.
C'est ça. Tout à fait. Et donc, en étant soutenu, et vous savez, ça n'a pas duré 10 ans, hein,
donc
la thérapie.
Donc, il n'y a plus de comportement violent. La thérapie a duré combien ? Donnez un exemple.
Oh, je dirais en moyenne, hein, parce qu'il y avait des périodes où il y allait toutes les semaines, d'autres où il y allait que tous
selon
les 15
ses
jours.
Besoins,
selon ses besoins, toujours
donc selon
ses
sa
besoins.
Demande.
Tout à fait.
Donc, on prend en compte la demande de l'adolescent.
Évidemment. Comment voulez-vous obliger ?
Dans le respect.
Mais bien sûr, hein, puisque bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Pour autant, il a bien senti hein, le bienfait de ce suivi. Et c'est de lui-même, après, il prenait rendez-vous, vous voyez, à 14 ans. Donc voilà, quand il en ressent le besoin, il sait qu'elle est là. Ça lui suffit. Pour autant, il réfléchit aussi par lui-même, à ses actes, à ses paroles. Il est capable de s'excuser. Et en ce moment, je dirais que c'est un adolescent, je touche du bois, épanoui. Et qui, à mon avis, s'il rencontre une nouvelle difficulté, n'hésitera pas justement à consulter, parce qu'il ne faut pas diaboliser les consultations. Ce n'est pas parce qu'on va chez un psychologue que l'on est fou, encore une fois. C'est simplement une personne ressource.
C'est important là ce que vous nommez là. Allez voir un professionnel tel qu'un psychiatre ou un psychologue ou un thérapeute.
Tout
ne fait pas de la personne une personne folle.
C'est ça.
Enfermé à tout jamais en psychiatrie, on est bien d'accord.
Hein. On est bien d'accord.
Vous vous y retrouvez là dans ce chemin, puis ce sont deux mamans en fait. Aujourd'hui vous êtes devenues des amies. Vous avez parlé l'une et l'autre avec vos expériences respectives de grande solitude.
Oui, d'un parcours à rechercher. Comment dialoguer avec son enfant ? Comment garder le lien ? Ne pas le perdre. Donc, moi, je me disais, il faut toujours que j'ai un coup d'avance, que je cherche pourquoi, comment les aider. Je ne peux pas les laisser dans la détresse. Alors, pour ma part, j'ai vécu une enfance où on ne connaissait pas, en tout cas chez moi, on ne connaissait pas la précocité. Et je me sentais seule quand j'étais adolescente.
Je rappelle pour nos auditeurs qui prendraient en cours cette série qui était consacrée ce mois-ci à la précocité, que vous-même, vous avez été diagnostiquée adulte hein, à la même période que l'une de vos filles précoces.
Oui. Du coup, je me sentais seule et je m'étais dit, là, j'aurais besoin d'aide. Je voudrais dialoguer avec mes filles et faire tout ce que je peux pour leur apporter mon soutien. Du coup, je suis allée voir des thérapeutes, surtout une coach. Mais après, il y a eu des psychologues qui sont passés et qui m'ont aidée à faire un cheminement. Ensuite, et ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'était de discuter avec d'autres mamans. La rencontre avec Ingrid m'a fait bien avancer et d'échanger ensemble nos parcours, c'est rassurant.
C'est rassurant, oui.
Tout à fait, parce que vous savez, il y a parfois un sentiment de culpabilité à être étiqueté intellectuellement précoce. Pourquoi ? Parce que dans la tête des gens, effectivement, surdoués, toujours plus, et puis donc haut niveau, etc. En fait, c'est un fonctionnement cognitif particulier hein, qui s'explique et qui est propre à chacun. Hein. Donc, la précocité de Karine ne sera pas la même chez sa fille. Hein. Elles n'auront pas les mêmes traits. Voilà. Donc, c'est ça qu'il est important de comprendre, je pense, de mesurer. Et au-delà de mesurer un QI, parce que c'est bien joli d'avoir 130 ou plus, on peut faire un concours de j'ai 142 ou tu as 163, donc je suis meilleur que toi. Mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que oui, ce sont des chiffres à un moment donné. Si vous refaites faire le test à un adolescent qui l'a fait à 14 ans, vous lui faites refaire à l'âge de 18 ans, il n'aura pas les mêmes résultats. Est-ce que ça, tout le monde le sait? Non, je ne crois pas. Voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est que au-delà du chiffre et du fait que l'on soit diagnostiqué enfant précoce, eh bien, c'est super. Mais l'éducation nationale, vous savez, elle accueille tous les enfants. Hein. Et donc, il faut être capable de s'adapter, parce que la société aussi, elle accueille tout le monde. Elle n'accueille pas que les gens intellectuellement précoces. Voilà. Donc, je crois qu'il faut quand même bien comprendre en tant que parent qu'il y a une éducation autour de cela et que ce n'est pas parce qu'on est surdoué qu'on ne peut pas dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, et respecter l'autre dans sa différence finalement, parce que c'est juste une question de différence, voyez. Donc il faut accueillir tout le monde et la personne qui est précoce peut se sentir coupable et du coup se sentir inférieur également aux autres. Voyez, donc tout ça c'est compliqué. Dans
alors
le
tout ça c'est compliqué. On n'a pas assez de temps. Hein.
Désolée.
Je rappelle que on est juste dans un 12 minutes dans Des clés pour grandir, une émission qui s'adresse spécialement à des parents d'adolescents et de jeunes adultes. Donc certains se seront peut-être reconnus hein, dans vos témoignages. Je vous remercie à toutes les deux. Merci Karine Ratier. Merci. À vous Ingrid Boussif qui êtes thérapeute. Oui. Si vous le permettez, vous m'avez donner l'autorisation de laisser sur l'antenne un numéro de téléphone, le 06 86 69 47 77, le 06 86 69 47 77. À très vite dans d'autres rendez-vous des clés pour grandir. Au revoir.
Merci, au revoir.